Bonjour à tous, dans ce podcast spécial Allemagne, on va revenir évidemment sur la saison exceptionnelle du Bayern Munich, un nouveau titre au niveau national et peut-être un triplé en Ligue des Champions, mais aussi une finale de Coupe d'Allemagne. On en parle avec Paulo Breitner.
RMC, After Allemagne,
Karine Galli.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Allemagne. On va revenir sur la saison du Bayern Munich qui pourrait être historique. On est évidemment aux côtés de notre drôle de dame spécialisée du foot allemand, Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonjour Karine, bonjour tout le monde.
Paulo, on va parler du Bayern Munich, le plus grand club allemand, et on va parler de cette saison absolument exceptionnelle. Alors déjà, ça y est, le titre national est acté. Le Bayern a remporté son 35e titre national à 4 journées de la fin. Et il y a également eu une performance. Ça a été le record de buts pulvérisés en Bundesliga, qui datait de 71-72. Revenons déjà sur ce succès face à Stuttgart. C'était attendu, mais le Bayern a été absolument impérial au niveau national.
Oui, c'est l'une des plus belles prestations d'un club allemand en Bundesliga et notamment du Bayern Munich. On le compare un petit peu avec ce qui se passe dans les années 70, évidemment, donc la période Beckenbauer, et puis sur la dernière décennie, hein, la période de Pankus et de Pep Guardiola par la suite. On parle un petit peu de le comparer avec le Bayern de Flick en 2020, mais c'est très spécifique 2020, puisque Hansi Flick avait pris en cours de saison le club et avait enchaîné à la fin par 21 victoires à la suite, toutes compétitions confondues, qui avait fait un triplé aussi comme en 2013. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant ce qui se passe. Ils ont marché sur la Bundesliga cette saison. Ça ne signifie nullement, par exemple, que le Borussia Dortmund n'a pas été performant, puisque c'est là des meilleurs seconds de l'histoire de la Bundesliga aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très très belle surprise, le niveau de ce Bayern-là qu'on n'attendait pas en fait en début de saison.
On rappelle donc que dimanche, c'est une victoire face à Stuttgart 4-2 qui a acté ce 35e titre national. Il y a ce record de buts aussi. Quelle valeur a-t-il au niveau de la Bundesliga? Donc il y avait ce 101 buts lors de la saison 71-72. Donc c'est quand même un record qui tenait depuis très longtemps.
Oui, puis en plus c'était avec Gerd Müller, donc il y avait toutes les légendes évidemment du football allemand qui étaient là, puis les années 70 évidemment pour le Bayern Munich avec le triplé, ce qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions était important. On ne s'attendait pas à battre ce record, ils ont marché sur ce record en fait. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 4 buts de moyenne par rencontre, c'est quand même assez impressionnant, au moins 3,5. Et à tel point que, comme il reste encore 4 journées, il pourrait complètement éclater ce record. C'est comme si quelqu'un battait un record du 100 mètres en athlétisme et qu'il mettait 2 dixièmes ou 3 dixièmes au record du monde actuel. C'est un truc qui est complètement fou ce qui est en train de se passer. Mais là où c'est intéressant, et pour moi c'est même pas ce record qui est le plus intéressant, c'est le goal average, puisqu'on est à plus 80 si je me trompe pas. Et plus 80, ça veut dire que la défense est stable, que Vincent Kompany a trouvé l'équilibre entre l'attaque et la défense. C'est pas une équipe qui est complètement, qui évidemment attaque beaucoup et aime bien avoir la possession et aime bien être dans les 30 mètres adverses, mais ce n'est pas caricatural comme certaines équipes allemandes qui étaient qui n'étaient pas du tout équilibrées au milieu et se prenaient beaucoup de buts. Donc là, pour moi, c'est la grande réussite de Vincent Kompany.
Alors justement, on va en parler de Vincent Kompany, c'est l'homme fort du Bayern Munich. Tu vas tout nous dire sur lui. On rappelle que nous sommes en mai 2024, que le Belge, alors relégué en championship avec Burnley, est nommé entraîneur du Bayern. Et à l'époque, c'était une énorme surprise, Paulo. C'était un choix par défaut. Et justement, eh bien, aujourd'hui, on est en avril 2026 et le Bayern essaye un petit peu de réécrire l'histoire.
C'est vrai que, en fait, il y a eu un drame en Allemagne pour la succession de Thomas Tuchel. Max Eberl, à l'époque, ne trouvait pas véritablement d'entraîneur. Donc, il y a eu les refus de différents noms. On connaît, Ralf Rangnick a refusé. On a eu Nagelsmann, par exemple, qui a refusé. On a eu Roger Schmidt qui a refusé, et finalement, et puis ensuite, il y a différents noms. On a eu Max Eberl pendant un moment, le directeur sportif, qui a dit, mais finalement, ce ne sera pas un coach italien parce que De Zerbi avait été approché. On parlait d'Allegri, etc. Et tout le monde avait dit non au Bayern Munich. À tel point que dans la presse, quasiment tous les jours, on sortait un nom, et même le Bayern commentait les noms via ou Lyonnais, ce qui ne facilitait pas au passage le travail de Vincent Kompany. Alors on estime en Allemagne, du côté de la presse, que Vincent Kompany était le 8e choix au départ, donc ce n'était pas encore une fois le premier choix, Et aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est que le Bayern est en train un petit peu de réécrire l'histoire, comme quoi tout était prévu, qu'on s'était renseigné sur lui auprès de Pep Guardiola, etc. Mais honnêtement, il y a eu un traumatisme à l'époque, en 2024, au début de la saison 2024-2025, pour savoir qui allait être le coach du Bayern. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le Bayern a une culture du conflit. Culture du conflit dans les bureaux. Donc ça, c'est évidemment Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, qui aiment bien dire, les deux aiment bien dire ce qu'ils pensent, etc. Et donc, sauf qu'on n'est plus forcément dans les années 80-90. Et aujourd'hui, les coachs, les grands coachs sont aussi des stars. Ils ont leur staff, etc. Et ils n'ont pas forcément envie de venir au Bayern Munich si tous les 15 jours, en fonction des résultats, on a Uli Hoeneß qui sort la sulfateuse pour dire ça ne va pas, et pour commenter tous les matchs. Donc c'est un petit peu comme ça, il y a eu une forme de procès contre le Bayern qui un peu payait peut-être sa façon de communiquer dans les médias lorsque ça n'allait pas. On voit Thomas Tuchel, il y a eu aussi un narratif sur Thomas Tuchel qui est assez exceptionnel. Lorsque Thomas Tuchel est venu au Bayern Munich, alors qu'on savait que dans sa période post-Dortmund, lorsqu'il est parti au PSG, Uli Hoeneß avait mis son veto pour qu'il vienne à l'époque au Bayern Munich. Uli Hoeneß, lorsque Thomas Tuchel est arrivé, avait expliqué qu'il s'était réconcilié lors de la finale de Ligue des Champions 2020, puisque lui était du côté parisien et le Bayern l'avait emporté. Et finalement, on s'est rendu compte encore il y a 15 jours que Uli Hoeneß a sorti la sulfateuse pour allumer Thomas Tuchel et sa façon de manager les joueurs. Donc tout ça est assez important. On n'a pas l'habitude en France de ce genre de climat, mais en Allemagne et au Bayern en particulier, c'est très très particulier. Donc le narratif aujourd'hui du Bayern est en train de changer en disant que tout était prévu avec Vincent Kompany, mais pour être honnête, ce n'est pas tout à fait la véritable histoire.
Et c'est important, effectivement, que tu nous apportes cet éclairage. Alors, justement, Kompany, il est quand même très jeune. Il vient d'avoir 40 ans. Et il y a un changement, parce que tu en as parlé, hein, notamment des sorties de Uli Hoeneß, et pas que, parce que du côté du Bayern Munich, il y a souvent eu des déclarations au choc. Là, il n'y a aucune polémique. Il n'y a pas de problème de vestiaire. Il y a aussi des anciens qui sont à nouveau au top. C'est ça, la grande victoire aussi de Vincent Kompany. Est-ce qu'on peut déjà le mettre dans la catégorie grand coach? Parce que je l'ai dit, il est quand même encore très jeune et il a que deux saisons, parce que là, il va terminer la saison avec le Bayern Munich. Avant, c'était des clubs moindres.
Alors, l'année dernière, par exemple, lorsque le Bayern a été éliminé par l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions, ce n'était pas du tout passé en Allemagne, parce qu'on estimait que Vincent Kompany n'apportait pas assez dans le jeu et qu'il n'y avait pas assez de variation dans le jeu, etc. Il payait aussi le fait qu'il avait une équipe un peu ancienne. On va dire ça comme ça. Et donc, il avait été mis un peu sur le grill à la fin de l'exercice 2024-2025. Et cette année, il devait y avoir un progrès. Ce progrès, il a eu lieu de différentes façons. Un, les recrues. Luis Diaz, Jonathan Tah notamment. L'explosion du jeune Karl, qui a permis d'avoir un effectif un peu plus large. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est l'énorme réussite de Vincent Kompany. C'est qu'on se plaignait en début de saison de ne pas avoir de banc au Bayern Munich, parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient plus au niveau. Certains étaient déjà partis, comme Leroy Sané, joueur polémique par excellence, parce qu'on ne savait jamais tous les 6 mois s'il fallait le garder ou le faire partir. Et il y avait l'ancienne génération qui était un petit peu critiquée, enfin je dis un petit peu, qui était très très critiquée, en l'occurrence Gnabry, en l'occurrence Goretzka, en l'occurrence le positionnement en milieu défensif de Kimmich, qui a 30 ans aujourd'hui. Et tout ça fait que on se posait la question de qu'est-ce que va être le Bayern 2025-2026. Et Vincent Kompany, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous ces anciens, il les a remis à un niveau extraordinaire, à tel point que Gnabry, via la blessure de Moussiala, est redevenu titulaire au Bayern Munich. Malheureusement, on le sait, il s'est blessé aujourd'hui. Il a Goretzka, qui était historiquement un titulaire indiscutable avant d'avoir des baisses de niveau. Eh ben, il a accepté son rôle de remplaçant de luxe alors qu'on voulait le vendre à tous les mercatos, etc. Kimmich est redevenu un milieu défensif extraordinaire et l'un des meilleurs à son poste en Europe. Et puis même Manuel Neuer, qui a 40 ans, on ne savait pas s'il fallait le garder ou pas, eh ben, il a réussi ça d'une façon extraordinaire. Et moi, je pense que c'est son discours en tant qu'ancien grand joueur. Il n'embête pas les joueurs, il leur fait confiance et en contrepartie, évidemment, il demande à ses joueurs d'être fidèles. C'est-à-dire, c'est l'équipe avant tout. Et il y a eu cette saison une domination physique impressionnante, une domination, on l'a dit, offensive impressionnante avec le trio Kane, Olise et Luis Diaz. On a eu des joueurs qui se sont à nouveau stabilisés. Et moi, je trouve que c'est une leçon de vie aujourd'hui. J'ai presque envie de dire, c'est presque les béni oui-oui aujourd'hui au Bayern Munich. Alors, c'est un club qui, historiquement, est très volcanique. Eh bien, il ne se passe strictement rien, juste des performances qui sont au-dessus de la norme, de la normale, et qu'on voit aujourd'hui dans le championnat. Évidemment, la qualification pour la Coupe d'Allemagne, la première fois depuis 2020, faut pas l'oublier. Et puis, cette demi-finale de Ligue des Champions.
Si Lyonnais, en tant que club de béni oui-oui, là, il fait un carnage dans la seconde. Polo, justement, tu as parlé d'un homme, Harry Kane. Est-ce que le fait qu'Harry Kane soit mis sur le banc pour se reposer et que ça passe crème, c'est parce que Harry Kane est un gentleman, il a vraiment un caractère plutôt facile, ou c'est parce que c'est aussi la réussite de Vincent Kompany qui, justement, arrive à lui faire accepter le fait qu'il doit pas jouer tous les matchs, alors qu'on sait que globalement, avec tous les joueurs, c'est quand même quelque chose de compliqué parce qu'ils veulent tous battre des records, ils veulent tous être les héros des matchs, etc., etc.
Mais ça, avec Harry Kane, c'est symbolique. Harry Kane est considéré comme le plus grand des professionnels au Bayern Munich depuis des années. Il était adulé par Thomas Tuchel, Vincent Kompany, c'est pareil. Et Harry Kane jouait tous les matchs, à tel point que, vu qu'il marque énormément de buts en Bundesliga, il pouvait prétendre enlever le titre, entre guillemets, de Lewandowski et des 41 buts dans une saison. Or, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, Vincent Kompany décide de faire du turnover sur des matchs moins importants, en l'occurrence le championnat. Et donc Harry Kane se retrouve sur le banc alors qu'il jouait tout le temps. Et ça ne fait pas de vague. Donc on peut le dire très clairement, sauf miracle, Harry Kane ne battra pas le record des 41 buts lors d'une saison en Bundesliga de Lewandowski. Et encore une fois, on n'en parle pas, et c'est pour le bien collectif, le bien de ce fameux triplé potentiel que peut réaliser le Bayern Munich cette saison.
On va en parler de ce triplé potentiel. Le championnat s'est acté. On va parler dans quelques minutes de la Ligue des Champions. Mais il y a la Coupe d'Allemagne qui est aussi importante. Hier soir, c'était la demi-finale et le Bayern s'est imposé face au Bayer Leverkusen 2-0. Il y a eu une nouvelle démonstration de force des Bavarois. Alors, ça peut paraître anodin, une finale de Coupe d'Allemagne, mais il y a un titre à aller chercher. Et ça n'est plus arrivé depuis 2020 dans cette compétition. Et surtout, en plus, on se souvient d'éliminations qui ont fait tâche. Hein. Par exemple, en novembre 2023, il y avait eu l'élimination face à une équipe de 3e division, Sarrebruck. Donc, est-ce que finalement, cette Coupe d'Allemagne, elle revêt un intérêt particulier après tant d'années et tant de désillusions?
Alors là, tu es typiquement dans ce que je pourrais appeler le paradoxe allemand. Lorsque le Bayern remporte habituellement la Coupe d'Allemagne, donc la 20e en 2020, on se dit, mais il y en a marre, c'est toujours le Bayern qui l'emporte, etc. Parce que Bayern en avait aligné plusieurs à la suite. Et puis finalement, là, on se rend compte qu'ils n'ont pas remporté depuis 6 ans. Et donc, tout le monde disait, il faut à nouveau remporter la Coupe d'Allemagne, à tel point que la Coupe d'Allemagne était devenue un objectif prioritaire pour d'autres clubs, et notamment le Borussia Dortmund. Et quand le Borussia Dortmund s'est fait éliminer, eh ben, on a tapé sur les doigts du coach et des joueurs de Kovac et des joueurs du Borussia Dortmund, parce qu'on s'est dit, écoutez, on pouvait peut-être remporter un titre. C'est devenu si important que hier il y a eu une forme de communication après la rencontre contre Stuttgart avec un t-shirt où c'était marqué devinez qui revient, c'est le Bayern. Donc c'est exactement ça en ce moment, il faut remporter la Coupe d'Allemagne. La dernière fois qu'ils avaient joué les Leverkusen, ils avaient perdu 4-2 contre les Leverkusen, et donc la victoire de hier soir contre les Leverkusen qui ne souffre d'ailleurs d'aucune contestation est importante pour avoir battu Leverkusen à Leverkusen, ce qui n'est pas une mince affaire. Et la deuxième chose, c'est de retrouver cette finale à Berlin. Et comme l'a dit Manuel Neuer, Berlin m'a manqué, parce qu'il y a cette fameuse chanson en Allemagne, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, nous allons à Berlin, qui est la finale évidemment de la Coupe d'Allemagne.
On est avec Polo Breitner, on revient sur la saison du Bayern Munich. Premier titre acté, c'est celui de champion d'Allemagne, c'était le week-end dernier, avec en ligne de mire évidemment la Coupe d'Allemagne, mais aussi la Ligue des Champions. Vous suivez l'After Allemagne avec Paulo Breitner, notre drôle de dame spécialisée dans le football allemand. Et on revient sur la saison exceptionnelle du Bayern Munich. Dimanche, le Bayern a remporté son 35e titre national. Il y a une finale de Coupe d'Allemagne à aller gagner maintenant, après avoir battu le Bayer Leverkusen hier en demi-finale. Et puis, il y a également, évidemment, la Ligue des Champions. On va en parler dans quelques instants. Déjà, par rapport à ce qu'a réalisé le Bayern, il y a les records de buts explosé, il y a une équipe qui est très équilibrée, tu nous en as parlé, Polo. Est-ce que pour toi, le Bayern 2025-2026 peut tutoyer, taquiner le plus grand Bayern de tous les temps ou on est beaucoup trop pressé en termes de comparaison ?
Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à comparer maintenant tout ce qui se passe. La première chose, c'est que si le Bayern ne réalise pas le triplé, on ne se posera pas la question. C'est-à-dire ça va se dégonfler... Du jour au lendemain, on va pas se poser la question. Par contre, ce que fait Vincent Kompany sur le terrain est assez impressionnant. Mais pour avoir vécu notamment le Bayern de Munich des fameux Robéry, donc Robben et Ribéry, la saison 2012 où ils perdent en finale de Ligue des Champions à Munich contre Chelsea qui avait mis le bus pendant toute la rencontre, et la façon dont le Bayern avait remporté le triplé en 2013, encore une fois, en battant notamment en demi-finale, en écrasant le Barcelone 4-0 et 3-0 qui était la grande équipe à l'époque de Barcelone, je peux vous assurer que celle de 2013, pour moi, elle marche, elle roule sur le Bayern d'aujourd'hui. Maintenant, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc à l'époque, on avait Mario Gomez, Mandzukic, Thomas Müller, évidemment, Robben Ribéry, Schweinsteiger, Toni Kroos, Dante, le Niçois, qui était en défense centrale, il y avait Van Buyten, Bad Stuber, etc. Philipp Lahm, évidemment.
Et il il est juste derrière moi.
Ah, là, il est là. Impeccable. Et évidemment, cette génération allait gagner la Coupe du Monde 2014. Donc, c'était en plus une équipe qui, par le style de jeu, était considérée comme très allemande. C'est-à-dire, c'était des vagues successives qui faisaient mal à l'adversaire, comme un boxeur qui mettait des uppercuts à longueur de temps. Il faisait exploser complètement l'équipe en face. Donc, à mon avis, c'est très difficile de le comparer, le Bayern 2026, par rapport à celui de 2013. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de buts marqués, la façon dont le Bayern d'aujourd'hui a marché sur certains adversaires, la façon dont Vincent Kompany déclare qu'il faut l'emporter à Paris lors de la phase préliminaire, et ils le font, malgré l'expulsion à la
45e. On voit effectivement cette victoire de Buzyn.
Exactement. C'est des choses-là, il y a des synonymes qui font que, il y a des symboles qui font que oui, c'est une grande équipe, mais encore une fois, il n'y a que le championnat qui est remporté pour l'instant. On verra s'ils remporteront la Coupe d'Allemagne. On verra s'ils remporteront la Ligue des Champions. Le débat, à la rigueur, il est pour moi un peu trop tôt. C'est sûr qu'en Allemagne, on regarde les statistiques. On dit oui, ils ont marqué plus de buts que 2013 et ceci et cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre et quels adversaires déjà tu rencontres et qui tu et de la façon dont tu les bats. En 2013, le Bayern était une machine, une vraie machine. Ils avaient perdu qu'un seul match de championnat comme aujourd'hui avec le Bayern, mais c'était un petit peu différent. Par contre, ce qui me semble important, c'est que le Bayern d'aujourd'hui est considéré comme le champion des cœurs aussi. Donc parce que souvent, le Bayern est tellement fort qu'il n'y a pas forcément une admiration extraordinaire du Bayern Munich. Cette saison, et c'est grâce à Vincent Kompany aussi dans sa communication, il a réussi à faire aimer cette équipe. C'est une équipe qui, même lorsqu'elle est menée au score, revient systématiquement, va s'arracher. La victoire, par exemple, à 3-3 contre le Real Madrid, le Bayern est qualifié. Il n'a pas besoin de mettre durant les arrêts de jeu le 4-3 via Olise. Et en fait, ils le font systématiquement. Ils vont réussir à revenir, etc. Et ça, on a senti que comme c'est une équipe un petit peu surprise quand même cette saison, le niveau qu'elle a atteint, notamment, encore une fois, par le réveil des anciens qu'on n'attendait pas du tout, donc on était dans une année de transition, eh ben, tu as le peuple allemand qui aime beaucoup ce Bayern-là. Et donc, peut-être que ça joue un petit peu sur le fait que le Bayern 2025-2026 peut se comparer avec des équipes avant. Mais moi, honnêtement, le comparer à 2013 et ce qu'étaient à l'époque Robben et Ribéry me semble un petit peu compliqué quand même.
C'est prémédité. On va parler justement de ce match de mardi, demi-finale aller de Ligue des Champions. Le PSG recevra le Bayern Munich. Beaucoup disent que c'est une finale avant l'heure. Est-ce que pour toi, il y a un favori ou pas, Polo ? Parce que c'est vrai que ce sont a priori les deux meilleures équipes d'Europe. Il y a le champion d'Europe en titre et celui qui nous a fait la plus grosse impression avec le PSG depuis le début de la compétition.
Il y a Arsenal aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense, qui avait
Tu les mets
fini
dans les
première.
favoris?
Arsenal, ils ont fini premier de la phase de groupe, tranquille, et ils sont en demi-finale, ils sont les
Oui.
favoris
Enfin, ils n'ont jamais
de la
gagné une
Coupe
Ligue des
League.
Champions et là, ils ont
Oui,
quand
mais
même
ça.
des
Oui.
difficultés.
Avant l'année
Leur
dernière, le
dynamique est très
PSG n'avait
mauvaise.
jamais gagné. Oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce que c'est une finale avant la lettre? Oui, à l'instant T, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un favori? Les gens vont sûrement dire que le Bayern est un petit peu favori. Moi, j'y crois pas, parce qu'il y a une telle qualité dans l'effectif des deux équipes que ce que je te disais en off, n'importe quel joueur peut trouver la ficelle s'il est dans un bon soir, quoi. Donc moi, je me pose la question vraiment d'une supériorité théorique du Bayern Munich, même si sur la dernière décennie, honnêtement, le Bayern Munich, alors que historiquement parlant, il faut revenir à George Weah qui l'emporte dans l'ancien stade de Munich, au stade olympique de Munich. Historiquement, le PSG embêtait beaucoup le Bayern Munich, était un peu la bête noire du Bayern Munich. Sur la dernière décennie, excepté la Coupe du Monde des clubs et cette victoire miraculeuse 3-2, non, et cette défaite même d'ailleurs, 3-2, non, victoire 3-2, pardon, du PSG. Il y a le Bayern ces dernières années est passé devant ou est repassé devant le PSG lorsqu'ils s'affrontent. Maintenant, le tenant du titre, c'est le PSG. Ils savent gérer cette compétition. Harry Kane a pour l'instant toujours remporté des championnats nationaux, en tout cas en Allemagne, et il faut qu'ils montrent que cette équipe est capable d'aller chercher le titre. Donc moi, c'est du 50-50. Et puis encore une fois, je pars toujours du principe que quand tu vois l'effectif, Luis Diaz, dans un bon soir, il va te mettre un triplé. Dembélé, à lui tout seul, il peut changer la rencontre. Donc tout ça fait que moi, je reste extrêmement dubitatif sur un favori sur cette double rencontre. Et
Mon ami.
je suis sûr que les deux coachs vont dire le favori c'est le Bayern et le
Oui.
Bayern dira le favori c'est Paris parce qu'ils sont tenants du titre.
Oui, c'est effectivement attendu du côté des entraîneurs. On a vu, hein, les statistiques, notamment des joueurs offensifs du Bayern Munich. On va parler d'un homme parce que ça va être très particulier pour lui. Tu as parlé de cette Coupe du Monde des clubs. C'est Musiala. Malheureusement, il avait été victime d'une terrible blessure lors de la Coupe du Monde des clubs. C'était l'été dernier. 192 jours d'arrêt. Il avait une fracture du péroné. Il avait eu les ligaments touchés. Il est revenu. Cette absence a été très longue. On l'attend mardi soir sur la pelouse du Parc des Prince. Qu'est-ce que tu en penses de ce retour? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a notamment Oliver Kahn, on rappelle, hein, évidemment, légende du football allemand, qui a dit qu'il ne devrait pas aller au Mondial. Il n'est absolument pas à 100% encore, parce que c'est une très longue blessure et on met du temps à revenir. Mais il a fait quand même des retours intéressants. On l'a vu notamment hier, il a été passeur décisif en Coupe d'Allemagne. Est-ce qu'il a un vrai rôle à jouer dans ce match qui sera vraiment très particulier pour lui?
Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il n'est plus le titulaire indiscutable au Bayern Munich du fait de sa blessure, et c'est Gnabry qui avait occupé ce rôle derrière Harry Kane. Et le fait que Gnabry se blesse fait que Musiala, deux joueurs, on va dire, de championnat qui étaient dans le turnover mis en place par Vincent Kompany, se retrouvent, on va dire, dans l'équipe A, à être titulaire soit en Coupe d'Allemagne, soit en Ligue des Champions. Et sera sûrement remplaçant ce week-end à Mayence. Moi, alors, j'ai discuté, j'en avais parlé un petit peu précédemment, j'en avais discuté, parce que comme c'est un ancien joueur professionnel, j'avais voulu discuter et avoir l'avis de Patrick Guillou sur ce qu'il pensait, parce que moi, j'avais un petit peu peur de Moussiala, parce que je le sentais qu'il avait un petit peu peur sur le terrain encore. Et Patrick m'a confirmé tout ça en disant, il n'a pas encore les appuis du grand Moussiala qu'on a connu. Il a sûrement encore un peu peur parce qu'il a fait, faut pas l'oublier, une rechute aussi au mois de mars, dans la
Oui.
deuxième quinzaine de mars. Et donc, il a très peu joué. Il n'a pas joué pendant les 6 premiers mois de la saison. Il a commencé vraiment à jouer au mois de janvier. Il est rentré lentement mais sûrement dans les 18-20 joueurs pour jouer à chaque fois 20 minutes avant d'avoir un peu plus de temps de jeu. Donc, le Bayern est en train, lentement mais sûrement, de le remettre à niveau. Le problème, c'est qu'on a besoin de lui tout de suite, mardi prochain, contre le PSG. Donc, il sera là. Dans quel état physique sera-t-il présent? Il sera présent. Voilà. Est-ce qu'il peut tenir 90 minutes? Hier, il est sorti à la 84e et on a vu qu'il cherchait un petit peu ses appuis comme s'il avait des petites douleurs et tout ça. Il a fait une passe décisive, tu l'as dit, Harry Kane, c'est très important. Maintenant, le grand Moussiala, on le verra sûrement en 2026-2027, mais sûrement pas cette saison.
Tu l'as dit, hein, par rapport à son temps de jeu, il a joué un seul match en intégralité depuis son retour. C'était le 6 mars face à Gladbach. Et derrière, il avait rechuté derrière. Par rapport à ce qu'a dit Oliver Kahn, pour toi, c'est complètement lunaire d'imaginer que Moussiala puisse faire l'impasse sur la Coupe du Monde ?
C'est difficile à des gamins, à des professionnels qui, dans leur carrière, au grand maximum, vont jouer 3, 4 Coupes du Monde, de dire ben, tu vas déjà en rater une. Donc, je comprends très bien ce que dit Oliver Kahn. D'ailleurs, ce discours s'entend, même encore une fois, avec Patrick, on en avait discuté. Et, oui, il y a des blessures très, très sérieuses qui font que les gens ne se rendent peut-être pas bien compte en France, mais Moussiala, on est peut-être passé à côté d'un accident industriel très, très grave. Et il y aurait peut-être pu y avoir une fin de carrière. Et d'ailleurs, moi, quand je le vois sur le terrain, le fait qu'il n'ait pas encore repris tous ses appuis fait que j'ai peur qu'il se reclaque à un moment, que ça claque à un moment et que ce soit beaucoup plus grave. Enfin, il faut revoir les images de l'époque, c'est très, très impressionnant. Et on ne peut pas empêcher un tel joueur, déjà, de par son niveau, d'être en sélection allemande et de jouer une Coupe du Monde. Mais la remarque d'Oliver Kahn, elle est très logique. Mais en fait, le Bayern le fait à sa façon. On le fait revenir lentement, on le fait jouer qu'un match par semaine, on lui fait jouer 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes, mais on le jette pas comme ça sur le terrain. Donc ça, moi, je pense que c'est pas possible pour un joueur comme Moussiala de ne pas aller à la Coupe du Monde.
Merci beaucoup, Polo, d'avoir été avec nous pour revenir donc sur la situation du Bayern Munich. On rappelle, prochain adversaire du PSG, ça sera en demi-finale de Ligue des Champions. L'aller au Parc des Princes mardi et mercredi suivant, ça sera évidemment à l'Allianz Arena. Merci, Polo. Merci à tous de nous avoir suivis. Et évidemment, chaque semaine, vous retrouvez un After Allemagne.
RMC After Allemagne.